Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Amis auditeurs, bonjour, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons notre émission sur la lettre apostolique du pape Jean-Paul II, Rosarium Virginis Mariae, le rosaire de la très sainte Vierge Marie. Et nous allons entrer aujourd'hui dans le troisième et dernier chapitre de cette lettre. Pour moi, vivre c'est le Christ, où le pape Jean-Paul II, après avoir énuméré les mystères de la vie du Christ avec Marie, les mystères du rosaire, après avoir ajouté aussi les mystères lumineux, aux trois mystères déjà existants, joyeux, douloureux et glorieux, eh bien, dans ce troisième chapitre, le Saint-Père, donc Jean-Paul II, va nous aider à travers sa méditation à entrer dans la manière de prier le rosaire. Oui, la manière de prier le rosaire. Eh bien, souvent, effectivement, nous avons aussi cette demande de la part de fidèles, aussi savoir comment réciter le rosaire, comment utiliser pratiquement le chapelet. Alors, comme nous l'avons vu, bien le chapelet, c'est aussi cet instrument, entre guillemets, de prière qui nous relie sur le mystère central de la foi. C'est pour ça que nous commençons la prière du rosaire ou du chapelet avec la récitation du credo, le « Je crois en Dieu », que l'on dit aussi à la messe. Souvent, nous utilisons la formule donc de « symbole des apôtres » qui résume aussi, voilà, tout le mystère du salut, ce qu'on appelle le kérigme, l'annonce du salut, le Christ dans son incarnation qui vient pour nous sauver et qui est mort et ressuscité justement pour nous faire entrer dans la vie nouvelle des enfants de Dieu. Donc comme le chapelet a pour but aussi voilà, de nous faire entrer plus profondément peut-être dans ce mystère du salut, nous commençons par la prière du credo. Ensuite vient un autre Père et trois Je vous salue Marie. Donc ces trois Je vous salue Marie, voilà, nous pouvons les dédier au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous pouvons les dédier aux trois vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. Hein. Donc voilà, ça ce sont, on peut dire, des ajouts que le chapelet aussi permet. Et le pape Jean-Paul II, on va le voir, eh bien, nous dit que nous pouvons aussi utiliser à travers la structure du chapelet aussi insérer d'autres prières et qui nous aident aussi à encore à approfondir le mystère de notre foi. Après donc vient l'énonciation du mystère que l'on va méditer, un Notre Père et dit Je vous salue Marie qui nous aide aussi à méditer sur ce mystère. Donc l'énonciation du mystère, il se fait aussi souvent avec une référence biblique. Et ensuite, on peut ajouter aussi là une méditation, soit une méditation personnelle, soit à travers des livrets de prière, etc. Et puis ensuite, donc, un Notre Père, il est dit « Je vous salue Marie ». Et on finit par la louange à la Trinité avec le « Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit ». Entre les mystères, souvent, nous voyons que nous pouvons aussi insérer d'autres prières, comme la prière de l'ange à Fatima, où nous demandons d'être préservés du feu de l'enfer, comme l'ange lui-même a demandé aussi aux enfants de Fatima, que lorsque l'on prie le chapelet, on insère aussi cette prière pour nous préserver du feu de l'enfer, et aussi pour... c'est une prière d'appel à la conversion des pécheurs. Et bien sûr, nous pouvons aussi invoquer des saints ou invoquer un vocable de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de Pompéi, Notre-Dame de Lourdes, etc., etc. Enfin, donc, une fois qu'on a fini donc, la méditation de tous ces des cinq mystères, là aussi, il y a des ajouts qu'on peut faire. Donc, par exemple, la prière souvent, évidemment, du Salve Regina. Donc, cette prière aussi qui nous recentre aussi sur Marie, puisque le dernier des mystères du Rosaire, c'est la Marie, Reine du Ciel. Donc, nous invoquons la Reine du Ciel et de la Terre à travers cet hymne du Salve Regina. Et puis, nous pouvons conclure aussi par la litanie à la Sainte Vierge, etc. Donc, on voit que c'est une prière à la fois structurée et en même temps une prière qui permet d'insérer aussi beaucoup d'autres invocations en fonction du temps liturgique, en fonction des intentions particulières du moment, en fonction aussi de la dévotion personnelle, tout simplement, aussi. Donc, il y a cette part de liberté qui est laissée à cette prière aussi du rosaire. Alors, entrons justement dans ce que le pape Jean-Paul II nous dit dans ce troisième chapitre. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Donc, évidemment, l'essentiel pour nous, comme on l'a déjà dit, c'est de se centrer, de rester centré sur le Christ. Le rosaire est un chemin, un moyen d'assimilation du mystère. La méditation des mystères du Christ, nous dit le pape Jean-Paul II, est proposé dans le rosaire avec une méthode caractéristique capable par nature de favoriser leur assimilation. C'est une méthode fondée sur la répétition. Cela vaut avant tout pour l'Ave Maria répétée 10 fois à chaque mystère. Si l'on s'en tient à cette répétition d'une manière superficielle, on pourra être tenté de ne voir dans le rosaire qu'une pratique aride et ennuyeuse. Au contraire, on est appelé à considérer les mystères du chapelet tout autrement, si l'on regarde comment l'expression de cet amour ne se lasse pas de se tourner vers la personne aimée par des effusions qui, même si elles sont toujours semblables dans leur manifestation, sont toujours neuves par le sentiment qui les anime. Donc, en gros, l'amour ne se lasse pas. Et donc, on ne se lasse pas aussi, lorsque l'on aime la Vierge Marie, de reprendre cette prière, cette belle prière de la salutation angélique, et qui est, encore une fois, le cœur de l'Évangile, puisque c'est par là que l'incarnation s'est réalisée. Et puis, en même temps, donc, nous nous confions à la Vierge Marie dans notre vie et à l'heure de notre mort. Dans le Christ, Dieu a vraiment assumé un cœur de chair. Il n'a pas seulement un cœur divin, riche en miséricorde et en pardon, mais il a aussi un cœur humain, capable de toutes les vibrations et de l'affection. Si nous avions besoin d'un témoignage évangélique à ce propos, il ne serait pas difficile de le trouver dans le dialogue émouvant du Christ avec Pierre, après la résurrection par exemple. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» Par 3 fois la question est posée, par 3 fois la réponse est donnée. « Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Au-delà de la signification spécifique de ce passage si important pour la mission de Pierre, la beauté de cette triple répétition n'échappe à personne. Par elle, la demande insistante et la réponse correspondante s'expriment en des termes bien connus dans l'expression universelle de l'amour humain. Pour comprendre le rosaire, il faut entrer dans le dynamisme psychologique propre à l'amour. Une chose est claire, si la répétition de l'Ave Maria s'adresse directement à Marie, en définitive, avec elle et par elle, c'est à Jésus que s'adresse l'acte d'amour. La répétition se nourrit du désir d'être toujours plus pleinement conformé au Christ. C'est là le vrai programme de la vie chrétienne. Saint Paul a énoncé ce programme avec des paroles pleines de feu. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Et encore, ce n'est pas moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Le rosaire nous aide à grandir dans cette conformation jusqu'à parvenir à la sainteté. Donc, une très belle invitation du pape Jean-Paul II qui nous invite à considérer différemment cette répétition des Ave Maria. Ce n'est pas seulement une répétition, justement, mais à les lire dans, comme il le dit, le dynamisme psychologique propre à l'amour. Et donc, quand on aime, eh bien, on ne se lasse pas de dire à l'autre que l'on aime. Et c'est vrai que, voilà. Encore une fois, la prière, comme toute prière, la prière du rosaire, eh bien, demande à être expérimentée et non pas seulement analysée de l'extérieur. Quand on analyse une prière de l'extérieur, on pourrait dire la même chose par rapport à l'adoration. À quoi ça sert de rester en silence comme ça devant un morceau de pain? Parce que extérieurement, c'est que du pain. Mais intérieurement, bien sûr, nous savons, c'est le mystère du Christ. C'est le Christ qui est réellement présent dans son corps et dans son âme et dans son sang aussi, donné pour nous, livré pour nous. Et nous adorons eh bien celui qui s'est donné pour nous. Nous adorons celui qui nous conduit aussi au Père. Nous adorons la très sainte Trinité qui me voit le Père. Donc nous sommes déjà dans ce face-à-face qui anticipe le ciel. Mais ça, c'est de l'intérieur. L'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens assis ou à genoux devant un ostensoir avec une hostie dedans. C'est tout simplement. Donc la prière du chapelet, c'est la même chose. Il faut l'expérimenter et non pas rester simplement à l'extérieur dans une analyse ou une critique. Et quand on l'expérimente, eh bien, on voit que même s'il y a dit « Je vous salue Marie », ce n'est pas du tout pesant. Au contraire, c'est un moyen précieux pour nous aider à découvrir aussi et à entrer dans la paix intérieure. Une méthode valable, nous dit le pape Jean-Paul II, qui peut toutefois être améliorée. Dans la lettre apostolique « Novo Millennio Ineunte », donc la lettre que le pape a écrite pour le jubilé de l'an 2000, j'ai rappelé qu'il y a également aujourd'hui en Occident une exigence renouvelée de méditation qui trouve parfois dans les autres religions des modalités plus attractives. Il existe des chrétiens qui, parce qu'ils connaissent peu la tradition contemplative chrétienne, se laissent séduire par ces propositions. On peut penser donc ici à toutes les méditations transcendantales, etc., que nous propose le New Age et tous les nouveaux mouvements religieux, comme on dit. Néanmoins, même si elles ont des éléments positifs et parfois compatibles avec l'expression chrétienne, je dis bien parfois, elles cachent souvent un soubassement idéologique inacceptable. Même dans ces expériences, on note une méthodologie très en vogue qui, pour parvenir à une haute concentration spirituelle, se prévaut de techniques répétitives et symboliques à caractère psychologique et aussi même physique. Pensons aussi justement à l'utilisation des mantras dans la méditation transcendantale, là aussi il y a une répétition. Mais le but n'est pas du tout d'entrer dans un mystère ou dans une contemplation. C'est à travers un exercice de concentration spirituelle, eh bien, entrer dans un état de conscience modifié. Donc, et décrocher du réel, en fait, entrer dans la transe, tout simplement. Donc ce n'est pas le but du chapelet, bien sûr, le chapelet n'est pas là pour nous faire entrer en transe, et même, voilà, c'est pas du tout même le moyen qu'il faut pour ça. Donc on n'est pas dans le même domaine. Mais on voit que, eh bien, d'un côté on peut critiquer cette répétition dans le chapelet, de l'autre on peut être séduit par ces nouvelles, pour nous en Occident, mais donc ces formes de méditation, d'utilisation de mantras et autres, etc., exercices de concentration, de vie, de soi. Et donc voilà, ou bien nous allons chercher à être concentrer sur les énergies qui nous entourent, etc., etc. Le rosaire se situe dans le cadre universel, donc de l'expérience religieuse, mais il se définit par des caractéristiques propres qui répondent aux exigences typiques et de la spécificité chrétienne. Et nous sommes centrés, bien sûr, encore une fois, sur le Christ et sur le mystère du salut. Ce n'est pas seulement une méthode de contemplation. En tant que méthode, le chapelet doit être utilisé en relation avec sa finalité propre. Il ne peut pas devenir une fin en soi. Cependant, parce qu'elle est le fruit d'une expérience qui a traversé les siècles, la méthode elle-même ne doit pas être sous-estimée. L'expérience d'innombrables saints milite en sa faveur. Pensons pour nous capucins à saint Padre Pio qui récitait je ne sais combien de rosaires par jour, mais qui invitait surtout ses fidèles à prier fréquemment et le plus possible le rosaire. Et puis pas seulement Padre Pio, mais aussi saint Maximilien Kolb. Il y a aussi bien sûr d'autres saints qui sont aussi des propagateurs du rosaire. Et nous pensons aussi à ces âmes qui ont été choisies pour recevoir les messages de la Très Sainte Vierge Marie, Bernadette à Lourdes, les enfants à Fatima, à la Salette, etc. Donc tous nous ont invités à prier et à prier assidûment le rosaire. C'est précisément à cette fin que vise l'intégration dans le cycle des mystères de la nouvelle série des mystères lumineux, ainsi que de certaines suggestions relatives à la récitation du rosaire que propose la présente lettre. Par ces mystères, tout en respectant la structure largement établie de cette prière, je voudrais aider les fidèles à comprendre dans ses aspects symboliques, en harmonie avec les exigences de la vie quotidienne. Sans cela, on court le risque que non seulement le rosaire ne produise pas les effets spirituels escomptés, mais que le chapelet avec lequel on a coutume de le réciter finisse par être perçu comme une amulette ou un objet magique, un porte-bonheur, en faisant un contresens radical du sens, de son sens et sur sa fonction. Alors, donc, comme on l'a dit, ce qui est au cœur aussi de la pratique, la technique, on va dire, du chapelet, c'est l'énonciation du mystère. Énoncer le mystère, et peut-être même pouvoir regarder en même temps une image qui la représente, c'est comme camper un décor sur lequel se concentre l'attention. Les paroles guident l'imagination et l'esprit vers cet épisode déterminé, ou ce moment de la vie du Christ. Dans la spiritualité qui s'est développée dans l'Église, que ce soit la vénération des icônes, de nombreuses dévotions riches d'éléments sensibles, ou encore la méthode elle-même proposée par saint Ignace de Loyola dans les exercices spirituels, toutes ont eu recours à l'élément visuel et à l'imagination, le considérant d'une grande aide pour favoriser la concentration de l'esprit sur le mystère. Il s'agit d'ailleurs d'une méthode qui correspond à la logique même de l'incarnation. En Jésus, Dieu a voulu prendre des traits humains. C'est à travers sa réalité corporelle que nous sommes conduits à entrer en contact avec son mystère divin. À cette exigence concrète répond aussi l'énonciation des différents mystères du rosaire. Il ne remplace certainement pas l'Évangile et n'en rappelle même pas toutes les pages. Mais le rosaire ne remplace pas non plus la Lectio Divina, mais il la présuppose et il la promeut. Et si les mystères contemplés dans le rosaire, y compris le complément des mystères de lumière, se limitent aux lignes maîtresses de la vie du Christ, grâce à eux, l'esprit peut facilement embrasser le reste de l'Évangile, surtout quand le rosaire est récité dans des moments particuliers de recueillement prolongé. Ensuite, vient le moment de l'écoute de la parole de Dieu. Pour donner un fondement biblique et une profondeur plus grande à la méditation, il est utile que l'énoncé du mystère soit suivi de la proclamation d'un passage biblique correspondant, qui, en fonction des circonstances, peut être plus ou moins important. Les autres paroles, en effet, n'atteignent jamais l'efficacité particulière de la parole inspirée. Cette dernière doit être écoutée avec la certitude qu'elle est parole de Dieu prononcée pour aujourd'hui et pour moi. Alors, là aussi, il y a certaines dérives que l'on voit aussi dans la récitation du chapelet en particulier récité en commun, que eh bien, la méditation qui suit justement la proclamation de la parole de Dieu est plus longue même que la référence biblique, et finit un peu voilà, par noyer, on pourrait dire, dans des tas de paroles, et, l'essentiel, le cœur, la force de la parole de Dieu. Donc voilà, il est bon de rester chaste, comme dit notre évêque, il emploie souvent ce terme dans la méditation que l'on insère dans les mystères, justement, pour laisser la place à la parole de Dieu. Chaste dans le sens de sobre, rester dans une certaine sobriété, et pour laisser la parole de Dieu aussi au centre, et non pas notre propre méditation ou les méditations qu'on peut trouver à droite ou à gauche. Et voilà, ça peut, au lieu de servir, ça peut desservir même la prière commune et alourdir aussi voilà, le temps de prière. Donc, centrons-nous sur la parole de Dieu qui nous aide à contempler le mystère sur lequel bien, voilà, nous méditons. Ensuite, le pape Jean-Paul II nous introduit aussi à être attentif au silence. L'écoute et la méditation se nourrissent du silence. Après l'énonciation du mystère et la proclamation de la parole, il est opportun de s'arrêter pendant un temps significatif pour fixer le regard sur le mystère médité avant de commencer la prière vocale. Donc il nous invite aussi à prendre voilà, quelques secondes de silence après l'énonciation du mystère et de la parole de Dieu pour voilà, assimiler peut-être et nous centrer davantage sur le mystère énoncé. La redécouverte de la valeur du silence est un des secrets de la pratique de la contemplation et de la méditation. Dans une société hautement marquée par la technologie et les médias, il reste aussi que le silence devient toujours plus difficile. Et voilà, on le constate aujourd'hui encore plus qu'il y a 20 ans où cette lettre a été écrite. De même que dans la liturgie sont recommandés des moments de silence, de même après l'écoute de la parole de Dieu, une brève pause est opportune dans la récitation du rosaire, tandis que l'esprit se fixe sur le contenu du mystère déterminé. Ensuite vient la récitation du Notre Père. Après l'écoute de la parole et focalisé sur le mystère, il est naturel que l'esprit s'élève vers le Père. En chacun de ces mystères, Jésus nous conduit toujours au Père, auquel il s'adresse continuellement parce qu'il repose en son sein. Il veut nous introduire dans l'intimité du Père, pour que nous disions comme lui, Abba, Père. C'est en rapport avec le Père qu'il fait de nous ses frères et qu'il nous fait frères les uns des autres, en nous communiquant l'Esprit qui est tout à la fois son Esprit et l'Esprit du Père. Et donc c'est aussi par cette prière que nous entrons le mieux dans la dimension filiale. Nous appelons Dieu notre Père. Et donc il est bon de nous recentrer sur cette filiation qui nous unit à lui, de nous rappeler que nous recevons tout du Père et que nous sommes conduits vers le Père. Les 10 Ave Maria. C'est tout à la fois l'élément le plus consistant du rosaire et celui qui en fait une prière mariale par excellence. Mais précisément à la lumière d'une bonne compréhension de l'Ave Maria, on perçoit avec clarté que le caractère marial non seulement ne s'oppose pas au caractère christologique, mais au contraire le soulignent et le mettent en relief. En effet, la première partie de l'Ave Maria, tirée des paroles adressées à Marie par l'ange Gabriel et par sainte Élisabeth, est une contemplation d'adoration du mystère qui s'accomplit dans la Vierge de Nazareth. Ces paroles expriment, pour ainsi dire, l'admiration du ciel et de la terre et font, en un sens, affleurer l'émerveillement de Dieu contemplant son chef-d'œuvre, l'incarnation du Fils dans le sein virginal de Marie, dans la ligne du regard joyeux de la Genèse, de l'originel, du pathos avec lequel Dieu, à l'aube de la création, a regardé l'œuvre de ses mains. Dans le rosaire, le caractère répétitif de l'Ave Maria nous fait participer à l'enchantement de Dieu. C'est la jubilation, l'étonnement, la reconnaissance du plus grand miracle de l'histoire. Il s'agit de l'accomplissement de la prophétie de Marie. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Répéter le nom de Jésus, l'unique nom par lequel il nous est donné d'espérer le salut, étroitement lié à celui de sa très sainte mère, et en la laissant presque elle-même nous le suggérer, constitue un chemin d'assimilation qui vise à nous faire entrer toujours plus profondément dans la vie du Christ. C'est de la relation très spécifique avec le Christ qui fait de Marie la mère de Dieu, la Théotokos. Et c'est d'elle que découle ensuite la force de la supplication avec laquelle nous nous adressons à elle dans la seconde partie de la prière, confiant notre vie à l'heure de notre mort, à sa maternelle intercession. Enfin, le Gloria, la doxologie trinitaire, qui est le point d'arrivée de la contemplation chrétienne. Le Christ est en effet le chemin qui conduit au Père dans l'Esprit. Si nous parcourons en profondeur ce chemin, nous nous retrouvons sans cesse devant le mystère des trois personnes divines à louer, à adorer et à remercier. Il est important que le Gloria, sommet de la contemplation, soit bien mis en relief dans le rosaire. Lors de la récitation publique, il pourrait être même chanté pour mettre en évidence de manière opportune cette perspective qui structure et qualifie toute prière chrétienne. Et pour terminer, l'oration jaculatoire finale. Donc, dans la pratique courante du rosaire, la doxologie trinitaire est suivie d'une oraison jaculatoire qui varie suivant les circonstances. Sans rien enlever à la valeur de telles invocations, il semble opportun de noter que la contemplation des mystères sera plus féconde si on prend soin de faire en sorte que chaque mystère s'achève par une prière destinée à obtenir les fruits spécifiques de la méditation de ce mystère. Le rosaire pourra ainsi manifester avec une plus grande efficacité son lien avec la vie chrétienne. Voilà, donc nous achevons ici notre émission pour cette semaine. La semaine prochaine, nous lirons la conclusion de cette lettre, donc magnifique lettre sur le rosaire, que je vous invite à reprendre, à redécouvrir, et peut-être pour redécouvrir cette prière profondément, cette méditation du rosaire. Et bien voilà, on a toujours besoin d'être renouvelé, et bien voilà, les réflexions, les références que nous donne le pape Jean-Paul II peuvent nous aider en ce sens à redécouvrir cette belle et profonde prière. Et puis, voilà, nous aider à être peut-être plus assidus à la prière du rosaire, voire même à corriger certaines choses qui, dans notre pratique quotidienne, peuvent avoir aussi assumé quelques déviances. Alors, voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine dans notre émission Eschatologie et Prophétie, et nous terminerons ensemble la lettre du pape Jean-Paul II. À vous tous donc, que le Seigneur vous bénisse par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire.
Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposées par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.